pourrais m'arrêter avec vous sur un homme du Nouveau Testament, cette fois. Ce matin, on a parlé de David. Mais un homme du Nouveau Testament qui avait je dirais qu'il était quand même assez paradoxal dans ses attitudes, dans ses comportements. Cet homme, c'était pas n'importe qui, c'était le roi Hérode. Alors regardez, on va lire dans l'évangile de Matthieu. Est-ce qu'on peut me baisser un chouïa, s'il vous plaît? Matthieu, chapitre 14, et on va lire les 12 premiers versets. Matthieu, chapitre 14. Encore un petit peu, ça ne me gênera pas. Hein. Ah, c'est pour l'enregistrement? D'accord. Pardon. Matthieu, chapitre 14, verset 1er. Il dit: En ce temps-là, Hérode le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs: C'est Jean-Baptiste. Il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait parler des miracles. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce que Jean lui disait: Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule, parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donne. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Et les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir et ils allèrent l'annoncer à Jésus. Amen. Alors, on a quand même du mal un peu à dire Amen, parce que quand même une histoire assez sordide. Hein. Peut-être vous vous dites, wow, dimanche après-midi, c'est mieux de parler de miracles, c'est mieux de parler de la multiplication des pains ou d'autres choses. Mais enfin, bon, voilà. En fait, s'il me fallait un petit peu résumer l'histoire d'Hérode, je dirais que c'était un homme qui était malheureux malgré les apparences. Et je voudrais un petit peu parler d'apparence cet après-midi. Il y a chez lui, d'un côté, ce qui se voyait, ce qui était évident, et puis il y avait de l'autre côté la façade un petit peu plus cachée. Vous voyez, il y avait un petit peu ce qui ne se voyait pas. Et je crois que c'est très intéressant parce qu'il y a chez chaque être humain, pardon, il y a ces mêmes deux facettes. Il y a ce qu'on voit, ce qu'on veut bien montrer aux autres, et puis il y a ce qui se cache derrière la devanture, derrière la façade. Là où personne n'a accès, là où personne ne voit, là où il n'y a pas d'œil, et peut-être, nous on sait, mais les autres ne savent pas, voyez. Hérode, c'était un peu ça, voyez. Si vous regardez, on ne va pas s'arrêter sur tous les détails, mais... C'était un homme qui, c'est vrai, en apparence, il y avait ce côté, cette façade que tout le monde voyait, c'est-à-dire un homme fort, un homme de pouvoir, un homme qui faisait ce qu'il voulait, un homme qui avait l'autorité. En lisant cette histoire, moi j'ai envie de dire un homme qui se donnait un style, qui se donnait un genre de quelqu'un de fort, voyez. Bon, c'était le fils d'Hérode le Grand, alors bon, en plus, il y avait toute cette renommée derrière, tout ce prestige derrière, c'est vrai, mais... ce qui est quand même assez étonnant chez lui, c'est que si tout ce que je viens de citer là, on le voyait, ça se voyait, il y avait cette façade là qui se voyait, cette partie apparente, je me remarque quand même une chose, c'est que c'était un homme qui, malgré les apparences, était lié par le regard des autres. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais malgré ce côté d'homme de pouvoir, d'homme fort, d'homme autoritaire, qui fait ce qu'il veut comme il veut quand il veut, cet homme, il est lié par le regard des autres. Regardez verset 5, il nous a dit que, bon, il y a l'histoire de Jean-Baptiste qui est là, Jean-Baptiste qui le reprenait, il n'était pas permis d'avoir la femme de ton frère. Bon, c'est vrai que la parole de Dieu, parfois, elle nous reprend dans certains domaines, et là, en l'occurrence, la parole de Jean-Baptiste le reprenait, et là, il nous dit, il voulait le faire mourir. Vous voyez, donc, ça, c'était son caractère, vous voyez, le gars de pouvoir, le gars de tempérament, le gars, vous voyez, qui... fort, enfin, qui manifeste, vous voyez, un tempérament fort, mais il nous a dit ceci, mais il craignait la foule. Mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Donc c'est quand même assez paradoxal, vous voyez, un homme quelque part de pouvoir, un homme d'influence, un homme qui quand même a tout pour lui, mais en même temps, il est lié par le regard des autres. Et ce que les autres pensent de lui... Ah, ce que les autres pouvaient dire, ce que le regard des autres sur lui, ça le paralysait. Vous voyez, c'est quand même assez paradoxal, ces deux facettes chez lui. Hein. Et puis, vous lisez un petit peu plus bas, vous avez remarqué, alors ça, bon, mais ça saute aux yeux, il va se faire manipuler par ces deux femmes-là. Vous avez remarqué? Bon, alors, il y en a qui vont dire, ouais, ça n'a pas trop changé aujourd'hui. Enfin bon, ça c'est une autre affaire, je voudrais pas avoir cette histoire à la sortie, mais je vais la voir. Ouais, bon. Mais il va se faire manipuler, vous voyez. Il y a Hérodias, il y a sa fille qui danse, vous voyez, et puis bon, à l'instigation de sa mère, elle dit donne-moi six sur un plat, la tête de Jean-Baptiste, etc. Et encore une fois, vous voyez, verset 9, il dit le roi fut attristé, mais encore une fois, à cause de ses serments et des convives, à cause du regard des autres, à cause de ce qu'on allait dire de lui, à cause de ce qu'on allait penser de lui, eh bien, une fois de plus, il a cédé. Donc, un homme qui, d'un côté, avait une apparence qui semblait l'apparence de quelqu'un qui était de fort, d'autoritaire, il savait ce qu'il voulait, et puis de l'autre. Un gars qui est faible, en fait. Un gars qui est faible. Et on retrouve ces deux aspects chez lui, ces deux facettes. Il y a d'un côté ceux qui se voyaient, et puis de l'autre, ce qui était derrière la façade. Vous voyez, et quand je lisais ça, je me suis dit, mais c'est pas étonnant qu'à un moment donné, et on va l'afficher derrière, permettez-moi cette expression, il se soit accoquiné avec Pilate, le gouverneur romain. Alors rappelez-vous, à un moment donné... lors de la crucifixion de Jésus, la Bible nous dit ceci, on va l'afficher dans l'évangile de Luc. Je n'ai pas mis le verset 11 aussi avec. Hein? Voilà. Il est dit, avec Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris, et après s'être moqué de lui, de Jésus, et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il le renvoya à Pilate, et la Bible nous dit, ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Vous voyez? Et c'est quand même assez surprenant, j'allais dire, pas tant que ça. Vous savez pourquoi ils se sont bien entendus finalement? Parce qu'ils étaient tous les deux pareils. Ils étaient tous les deux pareils. Parce que Pilate aussi, si vous regardez bien, c'est un homme de pouvoir, un homme d'influence, un homme qui, quelque part, laissait paraître quelqu'un de fort, d'autoritaire, vous voyez, mais un homme qui était lié par le regard des autres aussi. Il était exactement comme Hérode, à tel point que quand les religieux vont inciter la foule à propos de Jésus en disant qu'il relâche Barabbas et qu'il crucifie Jésus, là, de dire, mais, que Pilate va dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, je l'ai interrogé, je n'ai rien trouvé de malin en lui. Là, il dit que même il avait l'intention de le relâcher, il n'a rien fait qui mérite la mort. Donc, il est conscient de tout ça. Mais vous savez ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire. Et là, il dit que les cris de la foule l'ont emporté, et il va relâcher un meurtrier, et il va faire crucifier Jésus. Donc, j'ai envie de dire, Hérode et Pilate, même combat. Ils sont un peu pareils tous les deux. Vous voyez, il y a cette façade, il y a cette facette-là, qu'on voit d'hommes forts, d'hommes autoritaires, d'hommes qui avaient du caractère, d'hommes qui avaient peur de rien. Et puis de l'autre, des gens qui. Les mêmes personnes, vous les retrouvez dans certaines situations, par rapport à certaines circonstances, ils sont liés par le regard des autres, parce qu'on allait penser d'eux, parce qu'on allait dire d'eux, leur cote de popularité, vous voyez, en quelque sorte. Hein, et ça, c'est quand même assez paradoxal. Vous retrouvez ça aussi sous une autre forme avec un homme de l'Ancien Testament. Naaman, le général syrien. Alors, je prends juste un verset, ça sera le dernier qu'on va passer. Regardez, 2 Rois, chapitre 5, verset 1, il est dit « Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. » Ça, c'était ce qui se voyait. C'était ce que tout le monde voyait, ce que tout le monde savait, vous voyez. Mais il est dit « Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. » Et ça aussi, c'est très intéressant parce que vous avez d'un côté chez Naaman ceux qui se voyaient, un homme fort, vaillant, un homme qui avait remporté des victoires dans son métier, un homme qui avait une certaine réputation, et peut-être même si ce n'est pas écrit, que je me fais cette réflexion, peut-être tous les petits garçons syriens à l'époque voulaient tous ressembler à Naaman. Si on leur aurait dit, à qui tu me ressembles? Moi je veux être comme Naaman, vous voyez? Parce qu'il y avait cette apparence qui était là de quelqu'un de fort, de vaillant, qui avait peur de rien, un homme vraiment qui avait réussi, un homme qui dans tout ce qu'il faisait, ça marchait. Sauf que la Bible nous montre que cet homme, le soir, quand il allait dans sa chambre et qu'il était obligé d'enlever l'armure, il y avait tout ce côté qui ne se voyait pas, il y avait toute cette souffrance qui était là qui ne se voyait pas, et qui pourtant était bien présente, cet homme était lépreux, vous voyez. Qu'on le veuille ou non, et on le voit au travers de ces trois exemples, il y a chez l'être humain ces deux facettes. Il y a ce qui se voit, et il y a ce qui ne se voit pas. Et peut-être cet après-midi, permettez que je pose la question, qu'est-ce qui se cache derrière la façade? Moi, je vous vois, vous êtes tous beaux, là. Vous avez tous l'air sympathiques, tous gentils, autant que les uns que les autres, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la façade? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe quand on est tout seul, quand il n'y a pas de regard humain, quand il n'y a personne? Vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a derrière la façade? Et parfois, on peut être surpris. Parfois, semblerait qu'on va bien, que la personne va bien, que tout va bien, et puis vous vous rendez compte, au travers de certaines situations, au travers de certaines circonstances, que parfois ça ne va pas si bien que ça. Parce que derrière la devanture, il y a autre chose, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui est là, il y a une difficulté, il y a un problème, il y a un tourment, il y a un passé qui est lourd, il y a des choses qu'on traîne derrière, etc. etc. Et des fois, on est surpris. Et je crois qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont comme Hérode, comme Pilate, comme Naaman. Il y a ce qu'on voit, on dit ouais, ça a l'air d'être quelqu'un de ceci, de cela, il est comme ça, ouais. Et puis, il y a ce qu'on ne voit pas. Et parfois, on est surpris. Dans le bon sens, mais parfois dans le mauvais sens. On ne pensait pas, vous voyez. Parfois, derrière certains visages qui ont l'air sympa, gentil, charmant, etc. Quand vous découvrez ce qu'il y a derrière, vous vous rendez compte qu'il y a des souffrances qui sont là, vous vous rendez compte qu'il y a des blessures qui sont là, vous vous rendez compte qu'il y a des angoisses qui sont là, vous vous rendez compte que parfois il y a des choses qui ne sont pas réglées qui sont là, et on n'avance pas, quoi. Hein. Et vu de l'extérieur, jamais vous auriez pensé qu'il y a parfois même des drames qui sont là. Je me souviens, on m'a dit cet après-midi, je ne sais pas moi ce qui se cache derrière la façade, mais peut-être que il y a des blessures, il y a des souffrances, il y a des choses qui sont là. Et la meilleure chose à faire, c'est justement d'en parler au Seigneur. Et cet après-midi, il y a celui que j'appelle moi le grand spécialiste de ce qu'il y a derrière la façade. Le grand spécialiste, celui qui est capable de venir penser nos blessures, celui qui est capable de venir poser sa main sur tout ce qui est derrière, que peut-être les autres ne savent pas, que les autres ne voient pas, mais que nous on sait, c'est parce que c'est un problème, une difficulté, une souffrance, des choses qu'on traîne derrière nous. Et cet après-midi, on est réunis, on a chanté ces cantiques, on est réunis autour de celui que j'appelle le grand spécialiste, celui qui est capable de venir bénir nos vies. Jésus n'a-t-il pas dit, et j'aime beaucoup cette parole, hein, qu'il était venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Vous savez, en général, le cœur brisé, ça nous parle de quoi? Ça nous parle de ce qui ne se voit pas. Un bras cassé, bon, même plâtre, quoi. Et une jambe cassée, c'est pareil, on met des attelles, on met tout ce qu'on... Mais un cœur brisé, comment vous faites? Comment on fait avec un cœur brisé? Et ça, c'est l'image de tout ce qui ne se voit pas. Vous voyez? De tout ce qui ne se voit pas. Et quand Jésus prononce cette parole, qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est comme pour nous dire, je suis venu pour bénir, pour sauver, pour pardonner, pour soulager, pour intervenir dans la vie de tous ceux, de toutes celles qui peut-être quand on les regarde en apparence, tout va bien, mais en fait, ils ne vont pas si bien que ça. Quelqu'un qui a le cœur brisé, ça ne se voit pas forcément. Peut-être on a même l'impression qu'il va très bien. Peut-être cet après-midi, on peut donner l'impression de quelqu'un qui va très bien. Et peut-être même un chrétien. On peut faire celui qui va très bien, vous savez. Bon, peut-être Alain, Bernard, Albert, on a tous connu ça. Des fois, vous voyez des gens, vous... Jean-René aussi, ouais, je cherche ton prénom. Ça va? Oh ouais, ça va. Vous savez très bien que ça va pas. Ça va? Ouais, ouais, ouais. Et vous avez envie de le faire, mon avis. Et peut-être cet après-midi, je sais pas, moi j'arrive, et après je m'en vais. Hein, ça, je suis bateau ce soir. Mais peut-être, on est, même tout le monde est chrétien, on marche avec le Seigneur, et puis... Mais en fait, on ne va pas bien. Parce que derrière, il y a des choses qui sont là et il y a comme une souffrance, voyez. Il y a comme une souffrance. Alors, bien sûr, on peut essayer de camoufler, on peut essayer de cacher un peu comme Naaman avec son armure, on peut se blinder. Voyez, il y a mille et une manières de se blinder. On se blinde, on met l'armure et puis, voyez, et on cache, on camoufle tout ça derrière. Mais ça ne sert à rien, ça. Parce que ce n'est pas ça qui règle le problème. Et j'ai envie de dire, finalement, c'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est ce message qui nous parle de celui qui est capable de nous sauver, de nous bénir, de pardonner nos péchés, mais aussi de celui qui veut venir bénir à l'intérieur, là où personne ne voit. De poser sa main là où personne ne voit. Ça, il n'y a que le Seigneur qui sait le faire. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de le faire, qui a ce doigté pour venir étendre ses mains, de s'occuper de ceux et celles qui, peut-être en apparence, semblent aller bien. Mais ça ne va pas si bien que ça. Pas si bien que ça. Voyez. Et peut-être, cet après-midi, c'est peut-être le quotidien de quelqu'un. On fait celui qui va bien. On fait comme si tout allait bien. On fait aller. Mais peut-être à l'intérieur, il y a des choses qui ça va pas. Je crois que la meilleure des choses à faire, c'est pas je crois, si j'en suis convaincu, c'est de justement permettre au Seigneur d'être vrai avec lui, dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Je peux pas rester avec ça, Seigneur. Tu vois, peut-être les autres ne le savent pas. Peut-être je ne le montre pas, parce que par pudeur, parce que c'est ma vie privée, parce que peut-être ça ne regarde personne. Et ça, je l'entends et je le comprends. Mais de dire, Seigneur, je ne veux pas faire semblant. Pas faire semblant. Je ne veux pas montrer une apparence, un peu comme Hérode, qui montrait une apparence. En fait, il était lié, quoi. Hein, comme Pilate, pareil, comme Naaman qui faisait le fort, mais peut-être il n'y avait que lui et sa femme qui savaient, quoi, qu'après, son problème s'est répandu, puisque la petite fille, elle a dû le voir, etc. Enfin, vous connaissez l'histoire, mais Seigneur, je ne veux pas faire semblant. Peut-être cet après-midi, je veux t'apporter mon cœur. Je veux t'apporter ce qui à l'intérieur encore a besoin de guérison. Je veux t'apporter, Seigneur, tout ce qui ne se voit pas, mais qui a besoin, Seigneur, peut-être d'une restauration, d'un relèvement, de ta bonne main qui s'étend. Voyez, et si peut-être c'est notre réalité, cet après-midi, ben, qu'on ne soit pas de ceux de celles qui font semblant. Ça ne sert à rien. Dernièrement, j'ai presque fini, j'ai fait une étude, c'est un bien grand mot, parce que sur plusieurs mardis, là, sur Ajaccio, dans les évangiles, je me suis rendu compte d'une chose, et vous l'avez dû le voir avec moi, c'est que Jésus est rentré dans beaucoup de maisons. C'est très frappant de voir que Jésus est rentré dans toutes sortes de maisons, chez Marthe et Marie, la maison de Jaïrus, il est rentré dans la maison de Lévi, il est rentré dans la maison des pharisiens. Enfin, vous regarderez, il est rentré dans tout un tas de maisons. Il est rentré dans la maison de cet homme, vous rappelez, quand cette femme elle est venue pleurer là, et cette pharisienne qui a dit, mais si Jésus savait de quelle espèce était cette femme, vous voyez. Il est rentré dans cette maison-là. Et puis, Jésus est rentré aussi, et ça m'a frappé, dans la maison de Simon, de Pierre. Rappelez cette maison où il y avait la belle-mère qui était malade. Oh, la belle-mère. Alors, je ne sais pas si l'histoire de belle-mère, ça vient de là. Je ne sais pas. Mais la belle-mère était là, malade, atteinte de la fièvre. Voyez, et bon, l'histoire sur laquelle on pourrait passer très vite, mais je remarque une chose, c'est que, vous lirez le texte, il nous a dit qu'on parla d'elle à Jésus. Je réfléchissais à ça, je me disais, bon, après tout, Jésus était venu dans la maison, ils auraient pu, Pierre en premier, passer une bonne soirée avec Jésus, et puis la belle-mère la laisser dans un coin, pas parce que c'était la belle-mère, mais laisser la belle-mère dans un coin, la laisser dans la chambre, en se disant, après tout, ça passera, quoi, c'est pas grave. Et puis là, sur ce côté de la maison, ils étaient là avec Jésus, ils passaient une bonne soirée. Non, moi j'aime bien cette image, ils ont parlé d'elle à Jésus. Ils n'ont pas mis la belle-mère dans un coin en faisant comme s'il n'y avait pas de problème, mais ils ont parlé d'elle à Jésus. Et la Bible ne dit pas que Jésus a dit quoi, pour une fière, vous venez me... Non, il s'est penché sur elle. Il s'est penché sur elle, vous voyez. Et c'est d'autant plus, ça m'a d'autant plus interpellé que... Je ne suis pas un spécialiste, mais une fièvre, c'est que souvent, il y a une infection quelque part. Il y a une infection quelque part. Je me faisais cette réflexion, c'est que parfois, dans nos vies, il peut y avoir un foyer d'infection, quel qu'il soit. Et c'est si facile de le mettre dans un coin et de se dire, après tout, c'est pas si grave, on fait avec, on fonctionne avec. Et puis on fait comme si tout allait bien. Mais pourtant, le foyer d'infection, il est là. Comme la belle-mère de Simon qui avait cette fièvre était là. Mais Pierre, quand Jésus est rentré dans sa maison, il n'a pas mis ça de côté, il n'a pas occulté ça comme si ce n'était pas grave. Il n'a pas fait semblant, passé une bonne soirée avec le Seigneur Jésus. Donc, il en a parlé au Seigneur. Et je voudrais peut-être nous inviter cet après-midi à, peut-être s'il y a dans nos vies, dans notre être intérieur, encore quelques foyers d'infection, quelques petits, je sais pas, les petites choses résiduelles qui sont encore là. Dire, Seigneur, je pourrais faire comme si tout allait bien, mais je sais que ça, quelque part, ça me pollue, ça m'empêche d'avancer. Ça me freine. Ben, Seigneur, je veux pas faire comme si de rien n'était. Je veux te l'apporter, Seigneur. Pour que tu étends ta main, pour que tu te penches dessus. Et j'aime cette expression de l'Évangile. Jésus s'est penché sur elle. Cet après-midi, le désir du Seigneur, c'est s'il y a des choses là qui ont besoin d'être réglées, s'il y a encore des choses qui sont là comme derrière le rideau, personne ne le sait, personne ne le voit, mais permettre au Seigneur de s'y pencher dessus. Alléluia. Pour plus avoir besoin de faire semblant, quoi. Mais dire au Seigneur, que ma vie maintenant, elle puisse vraiment te servir. Alors, je termine, moi je reviens à Hérode, au texte d'introduction. Ce qui est dramatique finalement, c'est que, si vous regardez bien, Il y avait ceux qui se voyaient. Bon, on l'a lu, il a été attristé de tout ce qui s'est passé. Enfin, quand même, il a fait exécuter Jean-Baptiste. Vous voyez, finalement, il a continué comme si de rien n'était. À tel point qu'on a lu au départ que quand il a entendu parler de Jésus, il a eu une réaction assez bizarre. Il a dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste. Bizarre, ça, comme réaction. Il a dit, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts et c'est pour cela qu'il se fait parler des miracles. Ça montre que quelque part, il n'était pas... Il n'était pas si bien que ça, vous voyez, il était troublé dans son être intérieur, vous voyez, il a continué à faire semblant, il a fait exécuter Jean-Baptiste comme si c'était pas si grave, comme si tout allait bien, mais le gars il est troublé quoi, il est encore troublé, et je me faisais cette réflexion, c'est que, bah, on peut faire semblant, hein. On fait celui qui va bien, voyez, on peut continuer comme si de rien n'était, mais finalement, à l'intérieur de l'autre côté de la devanture, il y a des choses qui ne sont pas réglées, ça ne va pas, il y a des blessures, il y a des souffrances, il y a des tourments, il y a des angoisses, enfin, mettez-y ce que vous voulez. C'est tellement mieux de tout apporter au Seigneur. Et cet après-midi, dire, Seigneur, je ne veux pas faire semblant, comme si tout allait bien, je préfère t'apporter mon cœur. Alors c'est vrai, il faut du courage. Hein. Il faut du courage pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il faut du courage pour... accepter de baisser la devanture, être vrai avec Dieu, parce que finalement c'est ça, être vrai avec Dieu. Hein. On peut continuer, Hérode, c'est vrai, il a côtoyé Jean-Baptiste, qui ne le laissait pas insensible, c'est vrai, mais il a préféré sauver les apparences. Et on peut continuer, même en étant chrétien, à sauver les apparences. Hein. Il y a des choses qui ne vont pas, mais on sauve les apparences, amen, alléluia, gloire à Dieu, tout va bien. Et ça va, frère, ça va, je suis bien, impeccable, on peut continuer comme ça. Il vaut mieux être vrai avec Dieu. Et dire, Seigneur, tu vois, peut-être dans tel domaine dans ma vie, il y a encore des choses qui sont là, peut-être que les autres ne le savent pas, mais je ne veux, veux pas faire semblant. Je ne veux, veux pas avoir une apparence, donner l'impression d'eux, alors que derrière, il y a peut-être une souffrance, il y a quelque chose qui mériterait d'être apporté au Seigneur pour qu'il puisse se pencher dessus et tendre ses mains. Et ça, c'est un message peut-être pour quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Et si peut-être on a un cœur brisé, ben on peut s'approcher du Seigneur, mais même quand on connaît le Seigneur. Il y a des moments où on a besoin de dire, Seigneur, tu vois, il y a des choses qui sont là encore. Et j'ai besoin que tu m'aides. C'est bon d'être vrai avec Dieu. C'est vraiment la pensée que je voudrais laisser sur notre cœur, je termine. Hein, être vrai avec Dieu, c'est la meilleure des choses. Hein, il y a ce que les autres voient, mais ça, c'est ce que les autres voient, ok, mais... Il y a ce qu'il y a derrière. Et ça, nous, on sait ce qu'il y a derrière. On se connaît tous. Cet après-midi, on se connaît tous. Et on sait ce qu'il y a derrière. Et c'est tellement mieux de réaliser que, parce que Dieu sait aussi ce qu'il y a derrière, la Bible dit que tout est à nu à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Mieux vaut dire, Seigneur, je ne vais pas faire semblant. Ouais, il y a une souffrance là. Ouais, là, il y a une blessure. Ouais, il y a telle chose là qui n'est pas réglée. Seigneur, je t'apporte tout. Et tant que tu es venu sur mon cœur. Tant tes mains sur mon cœur. Je ne veux pas faire comme Hérode, je ne veux pas faire comme Pilate. Hein. Je veux me donner une apparence et puis en fait, derrière, c'est autre chose. Peut-être qu'il y a un âme, peut-être derrière l'armure. Vous savez, les armures, hein. On se cache derrière les armures. Hein. Des fois, derrière un fort caractère, c'est l'armure. Voyez. Et puis, on se rend compte que derrière l'armure du caractère, il y a des souffrances qui sont là. Et quand l'armure, elle tombe, elle est comme Naaman. Peut-être cet après-midi, c'est bon de dire au Seigneur, je tombe l'armure et je t'apporte mon cœur. Je t'apporte ce que je suis, je t'apporte ma vie, parce que j'en ai besoin. Alors je termine, je m'arrête là, je pense que j'en ai assez dit. Mais peut-être dans la simplicité, cet après-midi, moi je ne sais pas, peut-être que voilà, il y a des choses là, peut-être au Seigneur de mettre encore le doigt, qu'on puisse se permettre au Seigneur de le faire. Alors, si on veut faire comme Hérode, on peut, hein, faut continuer comme si de rien n'était, tout va bien. Mais on peut choisir l'autre option de dire, Seigneur, je veux être vrai avec toi, tu vois, j'ai besoin de ta grâce. Tu vois, dans tel domaine, j'ai une souffrance, j'ai une blessure, Seigneur, il y a ceci, cela. Mais quoi qu'il en soit, Seigneur, tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Tout ça, ça parle de ceux qui ne se voient pas. Et Seigneur, moi, je veux que tu poses ta main. Alors, voilà, un petit peu comme ce matin, dans la simplicité, peut-être vraiment permettre au Seigneur cet après-midi de vraiment nous visiter, nous faire du bien. Et peut-être si quelqu'un a besoin, ben, simplement, vous levez à votre place, on va prier le Seigneur. Après, c'est entre vous et Dieu. Moi, je vais prier, mais peut-être vous aussi, vous allez prier et dire, Seigneur, voilà, moi, je me lève, mais je me lève devant toi. Et Seigneur, entre toi et moi, voilà ce qu'il y a. Voilà ce qu'il y a. Voilà, voilà. Et je crois que c'est bien aussi de formuler devant Dieu. Quand je dis formuler, c'est entre nous et Dieu. C'est entre nous et Dieu. Alors si vous avez besoin de la prière, ben, peut-être levez-vous simplement, je vais prier le Seigneur qui vous bénisse, qui vous aide. S'il n'y a personne, tant mieux. Mais si peut-être quelqu'un a besoin de la prière, hein, voilà, pour quelque chose de particulier, ben, levez-vous, on va demander au Seigneur sa grâce. C'est tellement important. C'est tellement important afin que vraiment le Seigneur puisse étendre ses mains, puisse se glorifier. Le Seigneur, je t'apporte ton cœur cet après-midi.